Génération Prestart.
Génération Prestart.
Try again.
Try again.
Bienvenue tous les petits fans de jeux vidéo, vous êtes dans Try Again, l'émission des jeux vidéo rétro. Et aujourd'hui, je vous annonce une émission hot, une émission chaude, une émission sexy, puisque l'on va parler de Sexy Parodius sur Sega Saturn. Et vous ne devinerez jamais qui a fait une infidélité aujourd'hui à Nintendo. C'est la banane, c'est Martin.
Et ouais, c'est moi.
Pour c'est toi qui as choisi aujourd'hui de nous parler d'un jeu Sega, quoi.
Ben, c'est un jeu Konami qui est sur une console Sega, mais pas que.
Voilà. Et puis évidemment, comme d'habitude, il est épaulé par les deux autres loulous. Aujourd'hui, Lionel, alors, il nous parle d'un terme pas très sexy dans une émission Sexy Parodius, quand même. Le schmumps.
Le schmup.
Schmump. Donc il nous parlera de ça dans Insert Coins. Et c'est lui qui finira l'émission.
Voilà, sur les jeux sexy.
Voilà.
Et il y a à dire.
Et il y a à dire. Et puis, quoi de plus sexy que de commencer par une chanson du bain, Song Speed Bass. Donc, toutes ces musiques seront composées, ont été composées par Konami Kukaya Club. Voilà, vous avez vu, j'ai essayé la technique de le prononcer vite pour essayer de le prononcer bien.
Ouais. Je vais encore dire un petit truc, en fait, sur les musiques du jeu qu'on va écouter. C'est qu'en fait, ce sont des arrangements de musique célèbre. Et en l'occurrence, là, c'est le thème du stage 2. Et c'est un arrangement d'une musique qui s'appelle Psychius Post de Hermann Necke.
D'accord, ok. De la musique classique.
Voilà, la musique classique.
Voilà, c'est ça.
Donc, j'ai toutes les références des musiques classiques, donc je vais pouvoir les donner à chaque fois. Et c'est assez impressionnant, en fait, dans le jeu, tout ce qu'il y a comme référence.
Oh, oh, émission culturelle.
Ah ouais, vraiment culturelle.
Allez, on s'écoute ça et on revient tout de suite après pour en parler.
M57 Radio.
M57 Radio.
Try again.
Ça fait très plaisir de redécouvrir des grands classiques comme ça, des grands standards remixés. Ça fait du bien.
Ça donne la pêche.
Ça donne la pêche pour parler des shmups.
Ouais, des shmups. Alors, qu'est-ce que c'est que le shmup? Bon, c'est une plus ou moins la concaténation en fait du terme shoot 'em up. Parce que je vais vous parler de ce genre, donc on n'a pas encore abordé dans Try Again depuis ce début de saison. Donc, pour résumer tout simplement. Dans les shmups, vous incarnez généralement un vaisseau, souvent, ou éventuellement un personnage, selon le genre, et vous devez dégommer tous les ennemis qui se présentent à l'écran, en récupérant la plupart du temps divers bonus, améliorant votre armement et vos boucliers, pour se défendre de ces hordes d'ennemis qui vous assaillent généralement. Donc, c'est un genre particulièrement présent en arcade, et qui, il faut le dire quand même, est souvent un genre destiné aux hardcore gamers, principalement quand même, et aux adeptes de scoring, parce que on va dire que tout le concept du jeu repose quand même sur le score, le but étant évidemment d'avoir le meilleur score. Donc
En fait, c'est devenu un genre qui est arrivé aux hardcore gamers plus le temps est passé. À la base, ça n'était pas forcément, mais à force, eh bien, il y a eu plus en plus de jeux pour les hardcore gamers et c'est devenu presque un genre élitiste.
C'est ça, voilà. Maintenant, aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de la 3D et tout, on voit encore des shoot 'em up qui sortent, mais c'est vrai que ça reste des jeux en 2D qui sont réservés quand même, enfin, qui sont destinés vraiment à des joueurs, des fanatiques.
Il y a eu quelques essais en 3D qui n'ont pas trop bien fonctionné, mais c'est vrai que la 2D restera toujours là pour le shmup, quoi.
Voilà. Donc, il existe différents types de shmup, de shoot 'em up. On va déjà parler du shoot 'em up à déroulement, donc horizontal ou vertical. Alors, avec un scrolling, généralement, soit le vaisseau est à gauche, tirant vers la droite, ou le vaisseau est en bas, tirant vers le haut. Hein, c'est ce qu'on a le plus souvent dans le shoot 'em up. Donc, et les ennemis apparaissent. Principalement souvent en face de vous, mais bon, peuvent aussi venir des côtés de l'écran ou de l'arrière selon le type de jeu, mais bon, en général ils sont quand même à un moment ou à un autre, faut qu'ils passent devant votre vaisseau, donc ils sortent généralement quand même
9 dixièmes du temps, tu vas voilà. Avoir des chemins dans lesquels les vaisseaux vont venir de tous les côtés.
Ouais. Bah bon, après on va dire qu'ils se baladent un peu sur l'écran et ils vous balancent des petites boulettes à tire-larigot, donc selon le qui vous explose généralement, parce que bon, il faut dire que dans le shoot 'em up, souvent, la plupart du temps, hein, à part quelques exceptions, mais
c'est une balle, t'es mort.
Voilà, un tir, une vie, quoi. Donc, ce qui est.
Sauf si t'as récupéré des armures ou dont tu parlais tout à l'heure.
Il y a des exceptions,
quoi.
Mais après, c'est souvent spécifique à un jeu.
Ouais. Voilà.
Certains jeux, après, ils ont des modes de fonctionnement, mais c'est sûr que d'habitude, tu te fais toucher, t'es mort. Voilà, t'as perdu une vie.
Voilà. Donc, il y a un autre genre, c'est les shmup à écran fixe, dont le représentant le plus connu reste quand même Space Invaders. Donc un jeu en fait au concept simple qui consiste à dégommer une nuée d'extraterrestres évoluant de droite à gauche et de gauche à droite, et qui descendent d'une ligne en fait à chaque fois qu'ils arrivent au bord du tableau, au bord gauche ou droit du tableau.
En fait, le vaisseau, on a l'impression qu'il avance pas, quoi.
Le vaisseau il se déplace de droite à gauche.
Bah, ouais, c'est juste droite gauche,
en fait,
mais
il est statique en bas de l'écran. Ouais,
t'es un tank à la base dans Space Invaders qui doit dégommer les extraterrestres,
ouais,
qui descendent.
Un tank.
Un tank. Ouais.
Ça a pas la forme d'un tank pourtant.
Ouais. Bon, c'est des gros pixels.
Ouais, c'est ce que les gens voulaient faire, quoi.
Ouais. Voilà, on va dire que. On va s'imaginer que c'est un tank.
Que dans ce jeu, moins t'as d'extraterrestres, plus ils vont vite. À la base, c'était pas programmé pour, mais ça s'est fait comme ça.
C'est ça, et c'est un peu c'est un peu un jeu qui a révolutionné la fin des années 70, quoi. Et effectivement, le nombre d'ennemis affichés à l'écran, en fonction du nombre d'ennemis affichés à l'écran, plus on en avait dégommé, plus ils avançaient vite. Mais effectivement, comme dit Ellie, c'était en quelque sorte le programmeur qui avait oublié le fait qu'il y ait moins d'ennemis à animer à l'écran, ça libérait de la mémoire et du coup la machine allait plus vite pour faire les ennemis se déplacer plus vite à l'écran, et finalement ils ont trouvé que le concept était génial.
Excellent, ouais.
Et parce que quand il vous en reste plus qu'un pour arriver à le toucher avant que lui arrive à votre niveau et vous touche, c'est pas évident, donc c'est assez sympa, quoi. Donc il y a également les shoot 'em up multidirectionnels. Donc votre vaisseau peut s'orienter dans toutes les directions et tirer sur les ennemis qui peuvent arriver de tous les bords de l'écran. Un des exemples les plus connus, par exemple, Astéroïde.
Ouais,
alors,
ouais.
Un jeu que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, c'est vraiment sympa. Donc vous avez un petit vaisseau qui est représenté d'ailleurs dans les premières versions par un petit triangle en fait, quoi. Et vous avez des astéroïdes et c'est tout en limite en vectoriel, quoi. Enfin, c'est juste des petits traits. Il y a juste des traits qui représentent les astéroïdes.
Du blanc, quoi.
C'est ça, du noir et du blanc, de couleur à l'écran. Il y a les graphismes plus simples possible, on peut pas, quoi. Je veux dire, genre, on prend une règle et un crayon papier, on peut dessiner le jeu, quoi. C'est juste ça, quoi.
Mais il y avait quand même un moteur physique, parce que
il y avait un moteur physique.
Je sais pas si c'était dès le premier, mais alors, en tout cas, moi, ceux qui jouent à la suite.
Disons que le principe du jeu, c'est que un tir pousse comme on est dans l'espace, il part du principe qu'un tir va entraîner votre vaisseau vers l'arrière. Donc, en général, il faut compenser la déviation que vous donne le tir voilà, donc c'est assez particulier, et franchement c'est vraiment c'est vraiment un petit jeu sur lequel on peut passer des heures quand on s'y met, quoi. Donc un autre genre, le rail shooter, où vous contrôlez le plus souvent un personnage qui suit ou un vaisseau de temps en temps aussi, mais qui suit un chemin prédéfini et dont les mouvements sont très limités. Donc un exemple connu, Star Fox.
Ouais.
Où vous êtes, en fait, vous avez qu'un chemin prédéfini, où vous pouvez quasiment pas intervenir sur le déroulement, à part de temps en temps, peut-être choisir un endroit où on va aller à droite ou à gauche,
mettre un coup de
rail,
trouver un passage secret,
voilà.
On peut pas faire demi-tour.
Ouais, voilà,
il y a beaucoup de jeux où maintenant il y a des passages, des phases où on est dans ce style-là, où on est dans un vaisseau et Des jeux de guerre.
Les jeux sur rails, ça existe depuis longtemps.
Voilà, donc bon, un des points importants du shmup, en fait, c'est la maîtrise du masque de collision. Donc le masque de collision, je vais en parler rapidement. Votre vaisseau est représenté à l'écran grâce à un certain nombre de pixels, mais en fait, le masque de collision représente la partie du vaisseau qui sera sensible au tir ennemi. Donc il peut être plus petit, généralement dans certains shoot'em up hardcore où vous avez des centaines de boulettes affichées à l'écran, votre masque de collision fera des fois quelques pixels.
4.
Voilà. C'est la seule partie du vaisseau qui sera sensible. Donc même si une boulette traverse le vaisseau à un endroit défini, si ça fait pas partie du masque de collision, vous ne mourrez pas.
Ouais, il faut que les deux rentrent en contact en fait, le masque de collision de la boulette et du vaisseau. Si les deux se touchent pas, tu meurs pas.
Donc c'est vraiment voilà, c'est très important de gérer ça. C'est vraiment surtout à partir du principe où la mort est vraiment votre principal opposant dans le shmup, puisque elle vous prive généralement de vos bonus d'armes et d'armure, et que c'est pas évident de reprendre un niveau en cours.
Allez, place à la musique. Je vous dirai les titres et tout ça après.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Vous avez sûrement tous reconnu le très célébrissime Brahms, n'est-ce pas Martin?
Absolument, avec sa danse hongroise numéro 5. Au début, c'était l'introduction d'un musique qui s'appelle Vampire Killer, tiré de Castlevania, un autre jeu Konami.
Voilà, et la chanson a été rebaptisée pour Sexy Parodius, Welcome Kid.
Et en fait, tu l'as quand tu rencontres le boss du stage 3B. Quand tu arrives, et au début, elle te fait Iokoso, et après, je sais pas ce qu'elle dit en plus. Iokoso, ça veut dire bonjour en japonais, enfin, c'est-à-dire bienvenue. Et en fait, elle te dit quelque chose genre bienvenue enfant, et puis après, ça veut dire qu'elle va crever, parce que c'est une grosse méduse. Enfin, bon, j'y reviendrai après, c'est méduse.
Ça me fait penser à Donkey Konga, moi, ça me donne envie de ressortir mes.
Ils ont mis la musique dedans.
Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Sexy Parodius, et je vais vous expliquer que Sexy Parodius, en fait, est le cinquième opus de la saga Parodius, donc je vais commencer par faire un bref rappel de la saga en général, parce qu'il y a pas mal de confusions possibles qui existent. Donc le tout premier jeu Parodius, en fait, est sorti en 1988 uniquement au Japon sur MSX. Et il avait comme titre complet Parodius Taco Washiku Osoku, qu'on peut traduire par Parodius l'octopus qui va sauver le monde. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce jeu, il y avait 5 personnages jouables. Donc Vic Viper, le héros de la série Gradius, que tous les gens connaissent et qu'on a eu en Europe en tant que Gradius, puis après en tant que Nemesis. Hein. Le pingouin, qui était le père de Pentaru, héros des jeux Antarctic Adventure qui ont bercé mon enfance, pour ceux qui se souviennent de ce genre de détails. Il y avait Goemon, un héros de la série Gambare, qu'on connaît aussi en Europe. Il y avait Popolon Knight, un héros d'un jeu MSX qui s'appelle Nightmare, qu'en fait on n'a jamais eu et qu'on ne connaît pas plus que ça. Et il y avait surtout Taco le Poulpe, qui était le personnage nouveau du jeu, qui était le héros de la série. Donc c'est lui un peu qui était la mascotte de cette saga. Donc retenez bien Taco le Poulpe, qui aura plus tard un fils Taco, que j'en parlerai un peu plus.
Et on entend dans le fond, à vous dirais-je, maman, remixé.
Ouais, le Rainbow Resort, ouais, c'est le thème quand tu choisis ton personnage. Donc voilà, en fait, après le premier jeu, il y a eu rapidement en fait Parodius Da, qui était en fait le second volume, le second opus de la série qu'on a connu en arcade. Et en fait, le deuxième opus, c'est celui-là que les gens croient tous, c'est le premier, parce qu'on l'a eu un peu partout. En arcade, sur NES, sur Game Boy, sur PC Engine, sur Super NES et encore sur Sharpix 6800, non, 68000. Donc celui-là, on l'a eu vraiment un peu partout. Et du coup, en Europe, on le connaît en tant que Parodius. Mais en Europe, il y a une confusion énorme avec le volet suivant, qui en japonais s'appelle Gokuju Parodius, qui est donc le troisième, qui est sorti en 94, parce que on l'a eu sur PlayStation et sur Saturn en tant que Parodius tout court, alors qu'en fait c'est le troisième.
C'est de nouveau un délire de nom en fonction des frontières.
Déjà
quoi.
Le deuxième, qu'en japonais s'appelait Parodius da Shimataka Oware, qui veut dire du mythe à la rigolade, et ben en Europe, on l'a déjà eu en tant que Parodius simple, alors que Parodius premier, on l'a pas eu sur MSX. Donc en fait, si tu veux les trois premiers jeux, tu peux les avoir avec la même appellation Parodius, donc ça peut être hyper confus.
Ouais, tout à fait.
Mais sachez qu'en Europe, en fait, les seuls qu'on a eu, c'était le deuxième et le troisième. Le quatrième, c'était GQ Oshaberry Parodius, donc en fait un Parodius où le speaker parlait totalement, qui n'est pas sorti en arcade, il était uniquement sur Super NES, PlayStation et Saturn. Et enfin, le cinquième, Sexy Parodius, le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, qui était sorti en arcade sur PlayStation et sur Saturn, et j'ai choisi la version Saturn parce que j'ai pu y jouer et qu'on me l'a prêté. Voilà, je le dis clairement, c'est pas autre chose.
Ah, donc, c'est pas parce que tu préfères Sega à Nintendo?
Non. Non, parce qu'on m'a prêté le support officiel pour y jouer, donc voilà. Et en fait, je suis tombé amoureux des musiques de ce jeu, comme du jeu en général, sachant qu'avant, j'avais déjà fait, à part la version MSX, j'avais déjà fait tous les autres Parodius. Donc la série, je la connais quand même bien. Après ça, la série, elle a un peu sombré. Quand je dis sombré, c'est qu'elle a en fait presque disparu. En 97, il y a eu un jeu qui s'appelait Paro Wars, qui était en fait une sorte de jeu tour par tour où tu plaçais des mecs de Parodius, mais genre un strategy game, tu vois, un tactical RPG un peu, mais avec l'univers Parodius sur PlayStation et sur PlayStation, c'est tout. En 2007, sur PSP au Japon, il y a une réédition qui s'appelle Parodius Portable, où là en fait ils ont pris les 5 premiers volumes de Parodius, ils ont tous mis sur PSP.
Ça va être sympa ça.
C'est vraiment super, c'est vraiment une belle, très belle compile. Et sinon, la série a revu le jour seulement en 2007, donc c'est vraiment très proche de nous, parce que Sexy Parodius c'était quand même 96, donc il y a eu quasiment 11 ans d'écart, sur un titre qui s'appelle Automedius en arcade au Japon. Et bientôt sortira, ou est déjà sorti aux États-Unis, Automedius X, vu qu'il sort le 28 juin 2011 aux États-Unis, qui est sorti le 21 avril 2011 au Japon, donc c'est vraiment très proche de nous. Et on espère sortir en Europe, parce que nous en Europe, depuis le deuxième Parodius, on n'a plus rien eu, enfin le troisième.
Vous attendez désespérément.
Voilà. Donc maintenant je vais revenir à l'histoire de Sexy Parodius, parce qu'il y a une histoire, comme j'en parlais avant, avec le poulpe Takozuke. Donc Takozuke, le fils de Taco, le poulpe légendaire du premier Parodius, a en fait ouvert une agence d'intérim qui a pour but de régler le problème des clients qui font appel à cette agence. Logique, un peu comme l'agence touriste.
C'est excellent. Un poulpe qui fait l'agence touriste.
Est-ce qu'ils font des montages avec des fers à souder, des trucs comme ça?
Non, pas vraiment, mais on s'en rapproche parfois. Et donc en fait, cette agence, elle a donc le directeur qui est Takozuke, et il y a encore un secrétaire qui est donc Pentalo, le pingouin héros de Konami, pour une grande mascotte, que les gens connaissent peut-être. Mm-hmm. Et donc en fait les différents salariés sont les personnages incarnés par le joueur, parce que le joueur va devoir en fait être le salarié de l'entreprise pour résoudre les problèmes des gens.
D'accord.
Ok.
Donc là, maintenant, je vais faire pour sauver.
Voilà, tu vas accomplir différentes missions clients. Que je vais expliquer après. Et donc voilà, en fait, si on ne peut pas jouer le poulpe qui est le directeur d'agence, c'est parce que là, je vais faire un spoiler, c'est qu'à la fin du jeu dans les niveaux, il faut le poursuivre parce qu'il va se barrer de l'agence avec tout le magot accumulé.
Comme de par hasard.
C'est tiré de la réalité, ça.
Voilà, donc c'est pour ça que voilà, il y a ce petit parallèle. Tu pouvais pas faire autre chose. Et puis en fait, le poulpe, ce qu'il veut en fait, c'est construire un petit peu un palais érotique, parce que quand tu vois l'introduction à la fin, tu vois qu'il a un rêve ou une entouré de 5 charmantes donzelles.
C'est marrant, c'est un poulpe qui rêve de nana. Mais un
ouais,
poulpe devrait rêver de poulpe.
Avec les tentacules.
Bah oui. Enfin, voilà, c'est pour ça. On n'en va pas partir dans ce trip là. Et voilà, on s'arrête tout de suite.
Du coup, moi, ça m'a fait assez délirer. Et ensuite, quand tu lances le jeu, l'introduction, t'es déjà bien mort de rire, et donc tu demandes qu'est-ce que tu peux jouer comme personnage, parce que les Parodius, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de personnages, même le premier, il y en avait déjà 5, comme j'expliquais avant. Là, ce coup-ci, on a quand même 16 personnages. Ouais. En fait, c'est des binômes, donc il y a 8 binômes qui ont à peu près les mêmes types d'attaques, et ça reprend des grands classiques comme des petits nouveaux. Donc moi je vais commencer avec, enfin je vais vous les lister rapidement, faire un petit historique pour certains s'il y a besoin. Donc le plus classique de tous, Vic Viper, qui est là depuis le premier Parodius, le seul qui est vraiment resté durant là toute la saga. Son équivalent, c'est Lord British. Lord British, c'est en fait le second personnage jouable dans un shoot'em up qui s'appelait Salamander en arcade, qu'on a eu en Europe sous NES tout en tant que Life Force Salamander. Donc en fait il est un peu comme Vic Viper mais en rouge. Et donc lui, il vient en fait vers Takozuke parce qu'il veut retrouver sa gloire. Après, il y a deux cochons qui sont des anges, Michael et Gabriel. Ils ont 239 ans. Ils ont un sparadrap comme qui de cache sexe et ils ont des tirs un peu tout directionnels.
Oui, parce que les anges n'ont pas de sexe.
Voilà, c'est bien connu.
Alors que les cochons.
honnêtement, moi je les aime bien parce qu'ils ont des tirs qui partent un peu partout sur l'écran, donc ils sont assez agréables à jouer. Moi je les conseille pas mal, plus qu'en fait que le classique Vic Viper, que en fait je le trouve trop classique, je le trouve pas intéressant à jouer. Après, on a deux bunny girls, Hikaru et Akane. Elles étaient déjà apparues dans Goku Joe à Parodius, donc le troisième. Elles étaient en tant que boss dans le quatrième, et là dans le cinquième, elles sont nouveau jouables. Alors elles, c'est des bunny girls qui chevauche des gros boulets de canon.
Ouais, c'est pas du tout des boulets de canon ou des obus.
Et elles peuvent avoir des tirs en forme de carottes, et leurs options, c'est des sortes de petites têtes de lapin, donc c'est vraiment absolument délirant du début à la fin.
C'est original.
C'est pas du tout suggestif surtout.
Elles sont par contre assez difficiles à jouer pour les. Donc c'est un peu plus qu'aux réserves aux otaks, parce que je veux dire, pour les monter un peu en armement, elles sont un peu plus compliquées.
Sont plus compliquées à monter.
Voilà.
D'accord.
tu remarques des belles phrases, c'est bien. Après, il y a Ivan et Toby. Ce sont des pingouins qui remplacent un peu Pentaru. Alors ils ont 37 et 43 ans. Le second est borgne. Et en fait ensemble ils forment Iwatobi. C'est plus ou moins des pingouins de guerre qui lâchent des bombes qui sont échappés d'ailleurs d'une république ils s'étaient introduits clandestinement dans une république bactériologique.
Ouais.
Et en fait Ivan s'était fait capturer, Toby a essayé de l'amener et il a pas réussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est borgne.
D'accord.
Histoire, hein.
J'adore quand il y a des histoires comme ça. Mais là en plus on a des pingouins, des poules.
C'est tellement réaliste en
plus. C'est ça qui est génial. Après, il y a deux poissons, il y a Mambo et Samba. Alors Mambo, il a 25 ans, c'est un homme. Samba, elle a 28 ans, c'est une femme. Ils proviennent d'un jeu MSX2 qui s'appelait Space Mambo, sorti en 89, uniquement au Japon. Et Mambo, il est surnommé le général laser. Donc eux, ils ont plein de lasers qui peuvent tirer partout à tête chercheuse. Moi, franchement, c'est mon personnage préféré. Voilà. Je sais pas pourquoi.
Ouais, après, c'est son histoire.
Non, même pas. Après, il y a Quatu et Atsu. C'est des petits bonhommes qui sont sur des avions en papier qui volent. Je les trouve assez délirants parce qu'en fait, quand ils lancent des ennemis, ben en fait, ils lancent des petits bonhommes comme eux qui vont marcher des fois au sol, quand ils vont dans l'eau, ils vont remonter à la surface, ils vont nager. Des fois, ils vont être un parachute.
C'est marrant, c'est assez délirant.
Ouais. Ils sont sympas. Après, il y a Option et Multiple. Alors, Option et Multiple, en fait, c'est des Vic Viper. Il peut évoluer. Dans cette évolution, il peut y avoir des sortes d'options qui protègent en fait des tirs ennemis. Ok. Et donc là, pour la peine, et ben cette option-là est jouable.
D'accord.
Ok. Et en fait, Multiple, c'est l'équivalent de l'option de Lord British, qui est le double un peu de Vic Viper. Donc ils ont un peu le même rôle. Et quand on regarde la cinématique d'introduction, on les voit qu'un des deux s'est essayé un jour dans un puzzle game que j'adore, qui s'appelle Tsuyoshi, enfin dans la série des Titan Puzzle Dama, en tant que boule éliminable d'un puzzle game. Et en fait, il a pas survie, donc là, il revient chercher un boulot où il peut vivre.
D'accord.
Quoi. Et pareil, les petits bonhommes que j'expliquais avant, genre avion papier, eux, ils sont déménageurs dans la vie, quoi.
Ouais. Alors, question, ils sont toujours par deux, c'est parce qu'on peut jouer à deux dans le jeu.
Oui, mais ça, je viendrai après. Et enfin, les deux derniers personnages, j'aimerais quand même les dire, c'est encore Shooting Star et Black Viper. Alors, Black Viper, en fait, selon Vic Viper, s'il est invincible, c'est parce que Shooting Star existe. Et donc, il a jamais démenti son apparition, mais ils ne sont jamais vraiment rencontrés. Alors que Shooting Star, lui, c'est un méchant dans la série Twin Bee, qui est piloté par Ace, un mec avec une combinaison rouge. Et du coup, ben, il veut se racheter et il veut en fait de l'argent pour construire un nouveau monde.
Voilà, on a présenté les premiers personnages.
Tous les personnages étaient quand même assez lourds.
On est munis pour t'écouter après la musique pour la suite. Donc on écoute Tanuko, Destiny et Hot Lips.
M57 Radio.
Try again.
Try again.
Alors dans cette petite musique là, vous avez entendu au moins trois choses. Donc vous avez pu reconnaître Ludwig van Beethoven, vous avez pu reconnaître la petite musique de nuit de Mozart, et il y avait en plus une musique a priori traditionnelle pour enfants japonaise.
C'était sur le premier thème.
Voilà, sur le premier thème. Voilà. Et puis pour le deuxième thème, il y a rien de mieux qu'un petit French cancan pour Sexy Parodius quand même.
Bah là ouais carrément. Et puis enfin je veux dire, c'est des thèmes que tu. Alors ça je tiens quand même à préciser, c'est des thèmes que t'as contre les boss, parce que dans le jeu en fait, t'as d'abord un premier thème qui est le thème du personnage quand tu rentres dans le niveau, après t'as le thème du niveau, et quand t'es au boss t'as encore une autre musique.
Ah ouais, donc
la musique, la musique est omniprésente, et en fait quand t'as jamais l'impression de toujours avoir la même chose quoi.
Mmh.
T'es constamment avec d'autres trucs, et les musiques de boss elles sont vraiment terribles du début à la fin. Moi je trouve que c'est les plus marquantes. J'ai choisi une musique de niveau dans toute l'émission, alors à la fin, et voilà. Donc je vais revenir un petit peu donc sur le jeu. Donc avant de vous expliquer ce qu'il y a dans les niveaux, ce qu'il faut faire et tout ça, je vais parler un peu du gameplay, comment ça fonctionne ce fameux Sexy Parodius. Donc en fait on a les mêmes bases de gameplay qu'avait imposé Gradius en 85. Et donc il y a quelques ajouts en plus. Donc j'ai commencé par toutes les bases qu'a imposé Gradius, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Alors on perd une vie si on touche un élément du décor, c'est facile. On perd une vie avec un contact d'une boulette ou un tir ennemi, logique. Alors à l'écran il y a des capsules bleues qui permettent de tuer d'un coup les petits ennemis à l'écran. Si on prête capsule, ça tue tous les petits ennemis à l'écran. Après il y a un armement évolutif à l'aide de petites capsules oranges qui sont délivrées par des ennemis qui sont morts et qui ont souvent une couleur particulière. Après il y a aussi des... ou alors quand tu tues une vague d'ennemis, après le dernier ennemi peut donner cette petite capsule orange. Et donc ces capsules oranges, elles incrémentent une barre que tu as au bas de l'écran avec différentes choses. Le premier cran sera toujours speed up. Ok, donc peu importe les personnages, donc c'est pour augmenter ta vitesse. Et donc maintenant je vais donner l'explication par exemple de la barre que tu aurais avec Vic Viper.
D'accord, parce que les barres après elles différencient en fonction des personnages.
En fait chaque personnage a des tirs qui sont plus ou moins différents, donc je vais juste prendre Vic Viper qui est vraiment l'exemple type pour expliquer aux gens ce que ça fait. Donc après le speed, on a le missile, donc pour tirer en haut et en bas, là on a un tir double, après on a encore le laser, on a encore Shadow Option, après on a encore le haut, et après on a encore le shield. Enfin le haut il a, c'est que dans Parodius. Et donc ce qui se passe c'est que chaque fois qu'on prend une capsule orange, cette barre va augmenter d'un cran, donc elle va être noircie. Ok, cette case. Et donc le joueur pourra valider s'il veut à ce moment-là faire ça. C'est-à-dire que maintenant à chaque fois tu vas prendre, je sais pas, tu prends une capsule, tu vas être sur speed up, tu valides, tu fais encore speed up, donc encore plus rapide.
Soit tu choisis de faire speed up, soit tu choisis d'accumuler encore pour avoir
encore,
quelque chose.
Tu en accumules une suivante pour te dire je vais avoir une autre arme et ainsi de suite. Donc ça c'est au joueur de choisir son armement qu'il veut, sachant que en fait le compteur sera incrémenté à chaque fois d'une fois avec la barre orange, et que si un arme a atteint une catégorie maximale, et ben la case va être vide après. Tu pourras plus la sélectionner. Tu vas encore devoir passer par ce cran-là pour arriver au stade suivant, mais tu pourras pas la reprendre. Et il est impossible d'avoir le troisième et le quatrième emplacement vide. Ce sont deux armes qui ne sont pas complémentaires, mais qui sont différentes en fait. C'est-à-dire, pour chaque personnage, tu auras deux tirs différents. Donc, tu ne pourras jamais avoir ces deux cases-là vides en même temps. Pour tous les personnages. Après, Parodius a encore inventé d'autres choses. Il y a aussi le mode roulette. Alors, le mode roulette, on peut le laisser activer ou le désactiver dans les options. Et donc, le mode roulette, en fait, propose des fois, quand tu passes une petite pastille orange, que en bas, ton truc il défile et puis il faut que tu t'arrêtes au hasard et ça en valide un. Alors, ça peut être bien, des fois, ça peut être pas bien parce qu'il existe aussi le haut, comme je disais avant dans Parodius. Et le haut, en fait, c'est méchant. C'est placé juste avant le bouclier et ça t'enlève absolument tous tes bonus, toute ta vitesse,
super.
Toutes tes armes.
Mm-hmm. Donc,
le haut avec un point d'exclamation.
Voilà. Donc en fait, t'as juste pas envie de l'avoir, donc tu peux les activer dans les options.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut jouer en plus en même temps.
Ah oui, après, il faut encore se déplacer, tuer les ennemis et tout.
Et éviter de mourir.
Voilà
après, comme je l'expliquais, il y a un bouton pour tirer, un bouton pour faire incrémenter la barre. Et dans les Parodius, il y a un troisième bouton qui sert, qui lui, en fait, peut être pour la bombe. Non, pas la bombe, pardon, pas la bombe. Oula, de loin, pas la bombe. Pour l'effet des cloches.
Ah oui, les cloches.
Et donc les cloches, j'en parlerai un peu plus loin. Et donc une des grandes nouveautés de ce Parodius, c'est qu'en fait, on a le choix de pouvoir... Alors, une fois qu'on a choisi un personnage, il nous demande si on veut jouer en auto, en semi-auto ou en manuel. D'accord ? Donc la vraie nouveauté de ce mode, pour moi, c'est le vrai auto. Et je vais expliquer pourquoi.
D'accord, il faudra que tu nous expliques.
En fait, j'ai déjà fait tous les autres jeux avant, donc j'ai un peu plus d'un regard dessus, quoi. Donc en fait, dans le mode auto, le joueur ne pourra jamais choisir un moment dans sa barre ce qu'il veut valider ou pas. D'accord ?
Ça fait une difficulté de moins puisqu'on se concentre plus sur le jeu. Par contre, on peut pas avoir ce qu'on veut quand on veut. Quoi.
Voilà, on est automatique avec ce que la console nous donne. De plus, si on meurt, on va rester dans le niveau là où on était, et devant soi, quand on va réapparaître, il y aura 5 cloches. D'accord ? Donc tu vas pas réapparaître à un point prédéfini qui était avant. Et tu auras à chaque fois un speed-up qui va donner graphiquement dès que tu perds une vie.
D'accord. Okay. Pour repartir un petit peu plus facilement.
Voilà. Quand tu vas être en semi-auto, tu vas essayer d'avoir ce fameux speed-up qui va être donné dès le début. Par contre, tu pourras interagir avec la barre. Ok. Donc si maintenant tu vois que maintenant tu t'as pas envie de que l'ordinateur te mette ça ou autre chose, t'as envie d'un speed up en plus, tu peux le faire toi-même manuellement, ce que tu pouvais pas faire en auto. Ok.
Tout à fait.
Par contre, l'effet des cloches, comme en auto, et ben dès que tu récupères une cloche, il va être utilisé automatiquement dès que tu vas tirer un coup.
Désolé,
j'ai pas pu faire autrement pour cette phrase. Et enfin, le mode manuel. Alors, le mode manuel, c'est vraiment le plus dur du jeu. C'est réservé aux hardcore gamers. Parce que, en fait, là, tu dois tout gérer tout seul. Tu n'as pas de speed up gratuit dès le début. Donc, tu as le pouvoir des cloches avec le troisième bouton, comme j'expliquais avant. Et c'est toi qui choisis ce que tu veux faire ou non. Et si tu fais rien, et ben ta barre augmente et tu tournes en rond, tu fais rien.
D'accord. Mm-hmm.
Alors, ouais, qu'en auto et en semi-auto, en fait, t'es pas obligé. En semi-auto, moi, je trouve que c'est le mode le plus agréable à jouer. Et en fait, le semi-auto, c'est ce que t'as vu dans les autres versions. En tant qu'auto, tu pouvais quand même interagir avec ta barre.
D'accord.
Ou la cloche.
Et donc, les cloches
Alors, les cloches, il y en a de différentes couleurs, 6 en tout. La cloche jaune, la cloche de base, en fait, fait du point. Alors, si on prend que des cloches jaunes, les points vont augmenter. Donc, ça va faire 500, 1000, 2500, 5000, 10000.
Et ensuite, les points t'apportent quelque chose dans le jeu ?
Les points t'apportent des vies.
Ah, donc ça peut être intéressant.
Voilà,
de faire
donc
des
en fait, si tu joues du score et que tu veux faire des vies avec, oui, c'est intéressant. Après, il y a la cloche bleue. La cloche bleue est une bombe qui, en fait, détruit tout à l'écran. Voilà, la bombe classique.
Donc sympa aussi.
On n'a pas de bombe comme ça, on peut en stocker jusqu'à 3. Oui.
Quand t'as une cloche, en fait, il faut tirer dessus pour qu'elle change de couleur.
Voilà,
ça,
faut tirer dessus pour qu'elle change de couleur. Si tu tires trop dessus, elle disparaît et tu la butes. Mais tu peux quand même la tirer un certain nombre de fois dessus. Après, t'as la cloche rouge qui te fait une barrière qui va stopper des petites boulettes ennemies. Pas toutes, hein. Certaines boulettes ennemies, en fait, ça va tirer une barrière devant, tu peux en tirer 3. Ça va stopper une bonne partie des boulettes. T'as la cloche verte qui te rend invincible et tu deviens gros. Alors, si jamais tu prends cette cloche, tu ne perds ton bouclier. Si seulement t'as mis un bouclier avant avec un autre personnage, tu peux accumuler les deux. Par contre, tu peux probablement prendre ensuite des boulettes, des pastilles oranges pour avoir automatiquement le shield qui va revenir, enfin, un bouclier qui peut revenir dès que t'as fini. Parce que quand tu joues en auto ou en semi-auto, souvent le bouclier c'est le pouvoir que t'as en dernier, en fait. L'ordinateur, tu as vraiment les meilleurs tirs pour ton vaisseau, mais le bouclier c'est le truc que t'as en dernier. Même pour ton personnage, c'est toujours le truc que t'as à la fin. Après, il y a encore la cloche violette qui transforme les petits ennemis en power-up, donc toujours en pastille orange. Donc ça peut être vachement pratique.
Aussi, à condition d'avoir des petits ennemis à l'écran.
En fait,
du
ça peut être bien quand tu commences le jeu, si tu veux vite monter en niveau, enfin monter tes armes rapidement, tu peux te dire que la première cloche, tu vas en faire exprès de violette parce qu'après, tu vas avoir une grosse vague de petits ennemis. Et là, tu peux tous les transformer et là, tu peux te faire comme un malade dès le début. Et enfin, la cloche blanche qui fait apparaître un familier qui s'appelle Alex, qui a des points de vie et qu'on peut faire augmenter en niveau si on reprend deux cloches blanches ou lui redonne des points de vie si on prend des cloches jaunes. Et lui, par contre, il est hypersensible aux ennemis féminins. Je ne me suis pas trop amusé
Alex,
avec.
Alex, si tu nous écoutes.
Ah oui, c'est vrai qu'on a visiteur Alex. Donc voilà. Donc voilà un peu sur comment le jeu se
passe.
Alors,
donc quand tu vois une cloche, tu tires dessus pour essayer d'avoir la couleur que tu veux.
Quand tu tires dessus, elle va aussi bouger parce que c'est quand même, comme l'expliquait avant Lionel, un jeu de shoot avec un scrolling horizontal qui est calibré automatiquement, donc le personnage est à gauche et tire vers la droite, tout le temps. Ouais. Sauf ceux qui ont des fois des tirs en arrière, genre les cochons, des trucs du genre. Et donc après, dans les niveaux, eh ben, il y aura différentes missions à faire, et ça c'est un peu la nouveauté, parce qu'avant dans les Parodius, quand tu commençais le jeu, t'avais une transition immédiate avec la musique, tu as passé dans l'espace, et on te disait pas maintenant t'es à niveau tel et tel. Là c'est la nouveauté, c'est que t'as des vraies cassures dans le jeu, on va te dire ta mission c'est ça, et tu vas voir quelque chose qui va se passer, tu réussis ou pas ta mission.
Donc non seulement tu survis, tu tires les ennemis, mais en plus il faut que tu réussisses ta mission.
Voilà, qui va changer, parce qu'en tout dans le jeu, on peut considérer qu'il y a 10 stages, bien qu'en fait le joueur au maximum dans une partie va en parcourir 8. Je dis bien au maximum. Ok. Donc il y a des stages qui vont être fixes et d'autres qui vont pouvoir changer. Alors je m'explique rapidement. Le stage 1, tu commences un peu dans la ferme et tu dois tuer Cornchiwa, qui est le boss du stage. Rien de plus simple.
Bon,
c'est une bonne mise en bouche.
Ça va.
Le stage 2, tu vas être dans la salle de bain, donc c'est la première musique qu'on avait entendue, que j'adore. Tu dois devoir collecter 300 pièces. Et à la fin, tu vas devoir affronter un pingouin qui s'appelle Toilet Penguin. En fait, un pingouin avec un toilette sur la tête et qui, des fois, qui tire la chasse, il y a des bulles qui sortent. C'est absolument génial comme scène.
Non, c'est clair, c'est grandiose. Non,
c'est pas sérieux pour un sou.
Bah oui, non, c'est un peu
et en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu collectes 300 pièces. Et ben là, peu importe que tu arrives à tuer le boss ou non, il faut qu'il y ait tes 300 pièces. Quand je dis tuer le boss ou non, il faut savoir que tous les boss, et bien, je dis bien tous les boss, ont en fait un temps limite au bout duquel, et ben, ils vont mourir. C'est-à-dire que t'as un temps limite pour le tuer. Si tu le tues pas au bout de son temps limite, il disparaît. Mais tu l'as pas tué.
Comme dans Ikaruga.
Et tu avances quand même dans le jeu après.
Bah oui, parce qu'il faut que tu aies fait tes missions.
D'accord.
Et c'est pour ça que la première mission, eh ben, l'objectif c'était tuer le boss. Mais les autres missions, en fait, les boss, des fois, ils sont optionnels, quoi. Tu peux des fois juste survivre et attendre.
C'est un peu bizarre quand même que tu sois pas obligé de cumuler les deux, quoi. Tuer le boss plus
ta
mission.
Mais moi je trouve ça pas mal en fait. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça. Donc au stage 3, en fait le stage 3 eh ben, va varier selon qu'on a réussi ou non à faire la mission qu'on devait faire, c'est-à-dire collecter 300 pièces. Si on a réussi la mission, on va au stage 3A, si on a foiré, on va au stage 3B.
Donc plusieurs parcours possibles.
Voilà, déjà deux parcours qui se distinguent. Et donc le stage 3A, ça va être le palais englouti, où en fait on va devoir déshabiller des sortes de geishas qui sont des sirènes sous l'eau, qui vont sortir de sortes de serpents, qu'il faut d'abord détruire les serpents.
Tout l'intérêt.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il faut en déshabiller 200. Et moi, je pense que c'est sûrement une des missions les plus dures du jeu enfin, je la trouve beaucoup plus dure que les missions qu'il va y avoir après, quoi.
Mais c'est normal, les Geishas se déshabillent pas comme ça, voilà. Hein, je suis désolée.
Et à la fin, faut encore tuer un boss qui est Otoi, donc une sorte de poupée russe dont on a eu la musique avant, qui était, je sais plus, on l'a entendu, oui, c'était la troisième, Takunos Destiny. Ah non, même pas, non, on n'a pas entendu la musique d'Otoi, mais je l'ai pas mise, je crois. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, si on réussit, donc si on a foiré le stage 2, on arrive au château de Dracula, où là t'as une musique, la Chuchu Polka, qui est vraiment une musique fantastique aussi, qui m'a fait vraiment délirer. Et là, dans le palais de Dracula, il faut que tu tues 100 rats. Et les rats, tu les vois faire n'importe quoi, des fois ils sortent du frigo, ils regardent la télévision, ils sont cachés derrière des portes, ils sont cachés dans une bouclier d'armure. Enfin, c'est du grand délire du début à la fin. Donc ça c'est assez terrible. À la fin t'affrontes donc Médusa, où je te parlais avant de Médusa. Alors Médusa, ouais, quand elle te charge, c'est un boss qui des fois peut te charger si elle te charge. Tu peux voir un peu le haut de sa poitrine. Pas grand chose, mais tu peux.
Mais t'aimes bien te charger pour une fois.
Ouais, ça peut être marrant, mais bon. Et donc pareil au stage 3, si on réussit ou si on ou non la mission, il y a deux stages 4 diff possibles, le stage 4A et le stage 4B. Le stage 4A c'est une sorte d'usine où en fait il y a des filles qui sont des bunny girls qui sont enfermées dans des boîtes, ils font libérer 50.
Sympa aussi comme mission.
Honnêtement, je crois que c'est mon stage préféré du jeu après le stage 2, parce qu'il est vraiment terrible. C'est grandiose. À la fin, tu one life le stage. À la fin, t'as un gros cochon qui sort d'une boîte à la place d'une bunny girl. C'est terrible.
Tu t'attends à avoir la méga bunny girl, ouais, et voilà, en fait, t'as ça. Le cochon.
Et à la fin, t'affrontes une sorte de pingouin qui, dans une sorte de machine, t'envoie des cassettes. Tu peux encore libérer des filles. Donc, tu vois, ce qui est aussi bien, ça je l'ai pas encore dit, c'est qu'en fait, durant les missions que tu peux faire, quand t'affrontes les boss, des fois, tu peux encore réussir à faire ta mission durant les boss.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut que tu collectes des choses, ils t'en donnent encore.
Est-ce que tu m'avais montré? Parce que je pensais que t'allais foirer ta mission. En fait, tu savais que le boss, il allait te donner automatiquement les pièces ou les bonus.
Et donc après, je pouvais encore continuer. Donc si on a foiré le stage 3, on arrive à le 4B qui est une mine. Et là, il faut détruire des sortes de tractopelles ou des pelleteuses.
Ouais, moins drôle.
C'est déjà beaucoup moins drôle. Par contre, le boss, lui, il vaut le détour. C'est Tanuko le Tanuki. Et alors, lui, il a vraiment une grosse paire de...
Désolé. C'est un Tanuki, quoi.
Voilà, quoi, c'est un Tanuki. Qui
c'est
caché,
quoi, un Tanuki?
C'est un
raton laveur.
Voilà.
Mythologique.
Mais c'est très. Mais au Japon.
C'est un être sacré au Japon.
Il y a un dessin animé, enfin un truc d'animation comme ça avec les tanuki. Et effectivement, ils ont des.
D'accord.
Une paire de.
Bah, il est assez chargé. Puis devant, il y a une bouteille d'alcool encore. Et en fait, ce tanuki va faire voler des pierres. Et le truc, c'est que si tu lui tires dans ses parties, et ben les pierres qu'il va en train de faire voler vont tomber. Et donc, tu pourras le retirer. Tu pourras lui tirer dans la tête parce que c'est dans la tête qu'il faut. Là, il faut le toucher pour lui faire mal. Des fois, il va te charger et il pourra même des fois se transformer en une charmante demoiselle. Donc, ça sera le passage le plus sexy du stage 4B.
Oh.
Donc, en fait, à mon sens, c'est un des stages les moins sexy du jeu.
Ouais, parce
comme
qu'il faut se méfier, un raton laveur qui se transforme en femme.
Le stage 5, tu es dans les airs, il faut que tu récupères à nouveau 300 pièces, c'est pas super génial. À la fin, t'en fonds une sorte de bonbon. Alors, par rapport à ça, j'en ai quand même dire qu'il y a un mec sur le net, j'ai lu une fac, il pensait que ce bonbon c'était un signe Dreamcast juste en rose et pas en bleu, quoi. Et j'ai trouvé ça nul.
Alors que c'est juste un.
En fait,
c'est
une grosse sucette avec des bonbons autour.
Spirale, quoi.
Ouais, donc, il sait pas qu'une spirale, c'est pas forcément signe d'un Dreamcast. Enfin bon, voilà, il a vu ça là-dedans. Moi, je voyais pas forcément. Suite à ça, arrive encore à un moment ou un autre le boss rush. Le boss rush peut tomber après le stage 2 jusqu'après le stage 5. Donc c'est aléatoire. Et le boss rush, en fait, tu vas avoir 5 boss à affronter. Une seule vie. Si tu perds une vie, mission échouée. Les 5 boss, il y en a 4 anciens qui sont repris des anciens niveaux, des anciens de Parodius, et un nouveau qui sera le dernier. Donc le premier, c'est Monster Cappuccino. Avec une musique du même nom. Et c'est en fait une option.
Qu'on entend après, hein. Je crois que tu l'as
mis
en place.
Ouais, je l'ai mis un peu plus tard. Et donc, en fait, celle-là, en fait, t'envoie les options pour te mettre des power-up. Donc, en fait, quand tu commences le combat, tu peux te stuffer à fond. Non, mais t'attends juste qu'il t'envoie tous les power-up que tu veux, t'auras vraiment tes armes au maximum, et après, tu le détruis. Donc, faut pas te foirer niveau temps, en fait.
Ouais.
Le second, par contre, c'est It's a Boss. Et là, en fait, c'est une sorte de pingouin volant, entouré par d'autres petits pingouins qui t'envoient des boulettes. Et lui, il est tiré de Parodius 2. Donc de Parodius Da, et son nom c'est Captain Pingouin Naoshuki 3. Alors que le Captain Monster Cappuccino c'est un boss de Gokuju Parodius, donc Parodius 3, et qui est venu en tant qu'ennemi normal dans GQ Parodius Parodius 4.
D'accord, donc ils avaient déjà en plus été repris.
Voilà, en fait c'est des reprises d'anciens trucs. Après on a encore l'aigle Sabu, donc, et lui il est vraiment assez génial, c'est aussi une reprise de Parodius Da. Ouais,
à l'américaine. Hein.
Voilà, ouais. Qui d'abord t'envoie des petites plumes, et après t'envoie des gros trucs. Enfin,
il doit être chaud hein, si Sabu.
Ouais, il est chaud. Et puis t'as le même nom qu'un catcheur connu. Mais bon, là, n'est pas le sujet. Après, on a enfin Hot Lips. Donc, ce sont des lèvres où d'abord, ça t'envoie des bouches. Et donc là, t'as le fameux thème du French Cancan qu'on a entendu avant.
Il est excellent celui-là.
Là,
aussi,
il est vraiment terrible. Il a la bouche qui te poursuit, qui t'envoie des petits trucs. Et si tu arrives à passer ces 4 premiers boss, tu arrives à Yuko. le nouveau boss qui est en fait une sorte de demoiselle qui cumule en fait le pouvoir de tous les autres boss d'avant. Donc elle a les mêmes patterns, elle les cumule les quatre et elle les alterne. Donc tu peux encore récupérer des power-up, mais comme tu peux avoir des tirs d'aigle, des flèches à éviter, c'est un peu chaud. Et tu l'as déshabillé plus ou moins.
Je me demande si sur la Nintendo 3DS, dans la guerre des têtes. 3DS, pardon. Dans la guerre des têtes, à un moment donné, il faut éviter que les ennemis nous envoient des gros bisous. Et je me demande si ça doit pas être inspiré de ça, possible. Quand même, de ce boss. Et donc, ça m'y a fait penser en tout cas.
Après ce boss rush, on arrive enfin au stage 6, parce que le boss rush en fait n'est pas que dans un vrai stage, alors que ce stage 6, c'est le stage 6. Le stage 6, tu es au Taj Mahal, et en fait tu as le thème de l'hymne à la joie. Il faut justement que là tu rattrapes Takuzuki qui a volé le trésor avant la fin du temps imparti, et tu vas voir un peu plus. Deux boss dans ce stage, tu vas d'abord avoir des murs qu'il faudra détruire, et après tu vas aussi avoir Kaori. Kaori étant le boss le plus blague de l'histoire du jeu vidéo que je n'ai jamais vu, parce que là je vais faire un gros spoiler, mais je m'en fous, je le fais quand même. Quand tu as fini de passer les murs, tu vas vers Kaori, et à ce moment-là tu vois Takuzuki qui marque en bas avec le trésor, et qui avance vers Kaori, qui est en fait sous son drap, parce que Kaori est nu sous un drap. Et en fait Takuzuki va se faire écraser par les fesses de Kaori.
Il finit dans ce boss,
tout ce qu'il y a à faire, c'est juste pas se manger les genoux de Kaori. Elle va remonter.
Ouais.
Et c'est tout.
Et elle a pas de Kaori en trop.
Non. et c'est juste trop drôle, quoi. Et donc, si maintenant on a arrivé à remplir toutes les missions, donc des stages A, et réussi le boss rush en une vie, donc on a réussi vraiment toutes les missions, donc le stage 1 on a tué Kanchiwa, ouais, le stage 2 on a eu les 300 pièces, le stage 3 on a déshabillé 200 geisha, le stage 4 on a sauvé au moins 50 filles, le stage 5 et ben on a réussi à avoir au moins 100 pièces, on a fini le boss rush, on a réussi à arriver avant la fin du temps à rattraper Takuzuki. Ça en un seul crédit, je dis bien un seul crédit pendant une seule vie, et ben on obtient le stage spécial, un remix qui est un stage de plus de 5 minutes qui reprend des thèmes des autres parodius d'un an, des autres gradus d'avant, et ça reprend 5 musiques, c'est assez long. Et à la fin, on peut affronter Sexy Star, qui en fait, Sexy Star, et ben en fait, c'est un peu la méchante du jeu parce que c'est elle qui a rendu des amis un peu méchants alors qu'elle est sexy.
Quand on est sexy, on peut tout faire.
C'est le fameux boss de fin, le vrai boss de fin que m'avait vu lamentablement échouer la seule fois où
Le monde, il était déjà énorme, donc déjà pour y arriver, faut y aller, et puis ensuite.
Franchement, le jeu est quand même hardcore, quoi.
Jeu est hardcore, mais après, tu prends du plaisir. Donc c'est là, en fait, où je vais venir un peu sur.
T'aimes bien quand ça fait mal, en fait.
Ouais, mais après, je veux dire, là, moi, je l'ai montré, j'étais quand même en difficulté la plus basse du jeu.
Oui, mais je sais, c'est pour ça que c'était déjà hardcore en difficulté basse, quoi. Donc
voilà, maintenant, je vais quand même essayer de faire une petite conclusion sur le jeu, parce que voilà, j'en ai quand même dit beaucoup par rapport à l'intérêt général qu'il peut avoir ou non. Je trouve que contrairement aux épisodes précédents, les changements avec les stages, tout ça, c'est une bonne chose. Même en fait, surtout quand on termine un stage, à la fin on a encore des petites images en plus, et c'est vraiment marrant, donc ça j'aime bien.
Le scénar est marrant,
ouais. Ouais, le scénar est vraiment délirant, même l'univers aussi. Le mode semi-auto, moi je préfère au mode auto, je pense que c'est le mode que je vais conseiller à tous les gens pour commencer à jouer, bien qu'en fait le mode auto il peut être utile. Mais je lui trouve un gros défaut. C'est que maintenant, si on meurt dans un niveau, on va continuer avec le scrolling et tu vas avoir pas d'armement mais des cloches. Et genre, pour tuer des trucs ou récupérer quelque chose, ça va pas être pratique. Donc, je préfère mourir et revenir à un point qui est un peu plus tôt pour réussir à faire ma mission que de continuer comme ça et crever. Donc, ouais, je suis pas spécialement pour. Il y a une grande nouveauté dont j'ai pas parlé, c'est que quand tu joues à deux, parce que tu peux jouer à deux simultanément, et ben en fait, selon les combinaisons de personnages que tu as, tu vas créer des nouveaux tirs. Il existe 5 nouveaux tirs différents. Il y en a un autre ici, il y a un tableau complet qui te marque le nom des personnages que tu peux faire ou non. Parce que je sais pas si je l'ai dit au début, mais en fait, quand tu es en joueur 1, tu auras forcément un certain type de personnage, et en joueur 2, un autre type de personnage. C'est pour ça que c'est des binômes, en fait.
Ouais,
le joueur 1 a des personnages attribués, et le joueur 2 aussi. Et au final, moi, je pense que je préfère jouer en joueur 2. Mais bon, ça, c'est vraiment personnel. Je pense que le jeu, c'est un régal à jouer, à regarder, à entendre, à être acteur ou non.
Oh oui.
Parce que, en fait, il est tellement déjanté que, voilà, tu te fends la poire, ne serait-ce qu'en regardant des détails.
Et
même
puis, quand tu joues pas, voilà, c'est ça, tu regardes les détails de derrière des décors.
Et en fait,
quoi.
Quand tu meurs, des fois, tu regardes les détails et tu fais, oh mais non, oh mais ils ont osé, quoi.
Ouais.
La salle de
dans
bain,
le Taj Mahal, il y a des petites gravures de personnages dans des positions. Bon, pas, on n'est pas dans le Kamasutra
ouais,
non plus,
mais je pense que la salle de bain, c'est quand même le pire.
La salle de bain,
c'est quand même le stage le plus épique à regarder quand tu regardes tous les détails qu'ils ont fait.
Les super gros aussi, sont marrants.
Mais Multinafi, il faut libérer les filles, ou c'est un peu genre discothèque, c'est vraiment terrible, quoi. Je veux dire, ça fourmille de détails, ça a toujours été comme ça. Ouais, mais sexy, je mettrais quand même un gros bémol parce qu'il y a un auditeur qui posait une question justement sur si c'était vraiment sexy ou pas. Et ben, je dirais pas beaucoup plus que ça que les autres. En fait, les autres parodies c'était déjà un peu sexy, il y a toujours eu ce côté un peu fripon. Mais là, ils l'ont pas vraiment poussé à bout.
Pas plus, quoi.
Voilà, ils ont fait un peu plus, mais ils auraient pu faire beaucoup plus. Donc le terme sexy, mitigé.
Mitigé par rapport aux autres, mais sexy quand même.
Mitigé, mais quand même présent. Le boss rush est monstrueux. C'est un truc, il faut quand même le faire. Enfin, je veux dire, voilà, il mérite sa place. Et puis, il y a quand même des passages bien sexy dans le jeu. Mais j'en parlerai juste après si j'ai encore 30 secondes pour finir.
Tu demanderas.
Parce qu'après, on va quand même écouter la musique de Captain Monster Cappuccino.
Cappuccino, ouais. Allez, c'est parti.
M57,
un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
Hits and Move.
Hits and Move.
Quelques secondes de ton reload à Martin.
J'ai beaucoup de choses à dire, mais vas-y, il n'y a pas de souci.
La musique qu'on a entendue, c'est la marche turque de Mozart quand même.
Ouais, marche turque.
Donc pour terminer ma conclusion, en fait, je voulais quand même citer quelques passages qui sont pour moi le pinnacle, enfin le pic total du jeu en termes sexy. En première place, je mettrais quand même le stage 2 avec la salle de bain où partout il y a des petits détails qui sont vraiment assez hallucinants. Après, je mettrais le stage 4 où il faut libérer les bunny girls. C'est assez terrible. Et ensuite, ça va être que des boss. Hein. Ça va être Kaori, ça va être Yuko, ça va être Medusa. Et encore Tanuko et Tanuki, parce que vraiment, il est terrible, quoi. Et donc, deux derniers petits points. Le fameux code Konami fonctionne toujours. Le code Konami, pour ceux qui ne savent pas, c'est un code qui existe depuis très longtemps. On fait OO, BABA, OO, BABA, gauche, droite, BA ou AB. Et en fait, selon quand on fait le code dans le jeu, il faut mettre le jeu sur pause pour le faire. Et ben, selon le code qu'on fait, une fois, on va perdre tout son équipement. Et là, ça va te marquer OH! Et ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ou alors, on pourra avoir tout l'équipement qu'on être équipé au maximum, parce qu'il y a deux codes avec le AB ou BA, donc selon qu'on change le dernier bouton, voilà. Et en fait, pour moi, Parodius, c'est un cute them up incontournable. C'est pas un shoot them up, c'est un cute them up incontournable. Pour ceux qui aiment les shoots, allez-y, foncez,
c'est cute. Alors moi, je vais enchaîner par une question de notre ami Propru, un fidèle auditeur. Il se demande si dans ce jeu, y a-t-il des scènes bonus qui mettent ce côté sexy en avant, ou des scènes bonus à débloquer comme dans BMX XXX.
Alors,
spécial dédicace à Nelly, il a précisé.
Le seul truc à débloquer qu'on aura, c'est le stage caché. Ça offre une vraie replay value au jeu d'ailleurs, comme le scoring. Il y a aussi aller voir un peu toutes les fins de stage qu'on peut avoir, parce que quand on réussit une mission, on a toujours une image un peu plus sexy que si on la foire. Mais autrement, c'est vrai qu'il n'y a pas de truc comme dans BMXXX. Vraiment, BMXXX, c'est une frontière au-dessus, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est
plus différent. Du sexy d'ailleurs. Hein,
non, c'est... Voilà.
Ouais. C'est du XXX.
Mais si, il fait partie quand même des jeux sexy, je trouve. Je l'ai classé dedans d'ailleurs. Bon, je vais commencer par du plus soft. Alors, par exemple, des jeux Capcom, on trouve dans Super Street Fighter, on trouve Camille. Quand on gagne ses duels, elle se tourne de temps en temps et on voit ses fesses parce qu'elle a un string de guerre d'ailleurs.
Un string de guerre.
Et le geek de guerre, il met string de guerre.
Elle devrait avoir un string de guerre.
Elle n'a pas de cache-jambe. voilà, c'est. C'est pas la seule d'ailleurs. Dans Chun-Li, dans Street Fighter 2, il y avait certaines positions. Si on faisait start, on pouvait bien voir ses fesses.
Et avec ses collants.
Et ses jambonneaux surtout.
Non, mais ça dépend des versions en fait. Elle a pas forcément des grosses cuisses si musclées. Enfin, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus musclée. Dans X-Men Mutant Apocalypse, toujours sur Super Nintendo, Psylocke, on la voit aussi en string. Alors elle fait des tacles en 360 degrés, alors on peut bien admirer. Ah, c'est des petits coquins Capcom, hein. Alors tout le monde connaît les Dead or Alive. Ils sont connus pour quoi, ces jeux de baston?
Leur match de volée.
Ça en apesante. Ouais.
Alors il y a souvent des charmantes créatures qui ont une forte prime. Et ils en ont aussi fait un jeu de volleyball. Dead or Alive Volleyball. Et donc là, on peut s'en donner à cœur joie avec les miss.
Mais là, je pense que là, on peut plus s'en donner à cœur joie, c'était dans le deuxième, où en fait, quand tu changeais l'âge des personnages, et ben la poitrine gonflait.
Je savais pas ça.
Dans Dead or Alive 2, en fait, tu peux changer l'âge des personnages, et ouais. plus elles vont être âgées, plus elles vont être une poitrine, mais abusée.
Mais je croyais que ça tombait avec l'âge, mais non,
ouais,
pas
mais
du tout.
Ah ben là, c'est dit, la pesanteur n'est pas pareille.
Tu mets 99 ans, elles ont un truc genre Lolo Ferrari, quoi.
Énorme. Donc, Soul Calibur. Bon, là, pareil, jeu de baston, on voit Eevee.
Ivy. Il n'y a pas que elle. Hein,
dans oui, voilà.
Ah, la petite tenue moulante de Taki, ouais.
Ça nous met en Taki arythmique.
D'ailleurs, on peut presque. Non, mais on voit pas mal de choses, je trouve, quand même, quand on met dans le mode présentation des personnages. C'est quand même assez près du corps.
En moulant rouge, très sympathique. Ouais, ouais.
Oui, en fait, tu veux dire qu'il fait froid, quoi, c'est ça, en gros.
Ouais.
elle réchauffe l'atmosphère. Dans Final Fight, pardon. Alors surtout dans la version arcade, quand on frite les filles, elles se mettent un peu en arrière et comme elles ont un ventre apparent, on voit un petit peu.
Quand tu dis on frite, tu leur donnes des frites à manger du McDo ou
quoi ? Non, on leur tape dessus.
Du
Moi,
McDo,
je sais, on tape les filles, c'est pas très. Mais bon, c'est pas bien. Ça, je baston, ça beat them all, c'est fait pour. Donc dans la version arcade, on entrevoit un petit peu le bas de la poitrine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Dans Target Renegade, donc là, on affronte des prostituées et leur Mac. Et dans la version C64, c'est un petit peu particulier parce que le Mac, on dirait qu'il se déboutonne un petit peu, il sort plus ou moins un pistolet, il tire dessus, on sait pas trop si c'est un pistolet ou si c'est un truc graveleux.
Ah, s'il tire dessus, c'est plutôt un pistolet ?
Ouais, je pense, mais il a un grand impair comme ça, c'est un petit peu un sous-entendu malsain. Alors, dans les jeux plus récents, qu'est-ce qu'on voit dans les God of War ? Il y a des scènes de QTE qui sont assez sexy.
Les QTE ?
C'est vrai.
QTE, ouais.
Ouais, ça porte bien son nom.
Quick Time Event.
C'est vrai.
Donc ouais, ça consiste en un enchaînement de boutons. Ils te disent par exemple, faites carré, il faut vite sur PlayStation 2, voire 3. Faites carré, donc t'appuies vite sur le carré. Faites rond, faites un demi-cercle, etc. Faut le faire avec un bon timing parce que si tu mets trop longtemps à réagir, bah, tu recommences du début. Alors généralement, c'est dans des scènes de bain.
C'est trop rapide.
Il y a des femmes, tu vas vers elles, tu dis ah, viens, on va s'amuser. Ou alors dans le 1 de God of War 1, je crois que c'est dans un lit. La caméra se détourne de l'action pour regarder vers un pot qui est à côté du lit et on entend juste les bruitages. Oh oui, vas-y.
Ah, tu le fais trop bien.
Fais gaffe, tu vas peut-être avoir des propositions pour faire doubleur de films porno là. Parce que attention quoi.
Et alors dès que tu te foires, c'est la fille, elle fait un commentaire. Oh, c'est déjà fini. Là, tu peux recommencer.
Dans Fable aussi, hein, il y avait un peu ça, Lionel, Fable 2.
Ouais, il y a
hein,
disons
que. Tu pouvais avec qui tu voulais, puis
oui,
tu entendais voilà. Les bruitages, les commentaires.
Ouais. C'était pas très, très bien doublé d'ailleurs en français non plus. C'était à peu près du même niveau que les films dont on parlait juste avant. Donc,
c'est Sam Sored.
Ouais, non, c'est pas. Vaut mieux les écouter en version originale, je pense.
Et pareil que dans God of War, dans Assassin's Creed, pareil, il y a des scènes de QTE où tu peux t'amuser un petit peu. Alors, un jeu que je pense personne ne connaît à part moi, c'est Tension sur CPC, sur Amstrad. C'est un jeu de street poker. Alors, plus tu gagnes,
plus tu vois des pixels.
Exactement. Tu vois une femme qui se dénude. Alors, si t'as gagné beaucoup de parties, ouais, elle se dénude beaucoup. Alors, tu dis, mais c'est quoi comme partie ça ? Attends, ça doit être la poitrine, ça c'est le bras, je pense. Là, tu vois, elle marche, c'est animé, ça prend presque tout l'écran. Tu vois pas la tête la plupart du temps ou...
Bon, c'est pas ce qui intéresse, hein, c'est pas grave.
Et du coup, voilà, le jeu est très bon, très bonne musique. Si un jour j'ai l'occasion de vous les faire écouter,
je pense qu'un jour il va faire un sujet dessus.
C'est clair.
Bon, c'est un jeu de poker après. C'est très sympathique. Donc, dans BMXXXX, pour revenir dessus, donc sur GameCube, Xbox, je sais pas s'il est sorti sur d'autres supports.
Je sais plus, peut-être.
Donc, c'est un jeu en gros avec un BMX. Ouais. Vous l'aurez compris, avec un vélo. On peut prendre des prostitutes. Ça s'appelle les prostitutes.
Oui, c'est vrai.
La traduction française est vraiment grandiose.
On les prend sur le vélo. Alors, bon, elles sont pas très, très vêtues. Donc...
Elles sont très court vêtues. Forcément, on voit
sur un vélo assises dessus, bon, ça va pas être très confortable pour elles. Et on doit les ramener à leur Mac, hein, je crois que c'est ça.
Ouais, au Mac, à l'hôtel. Livrer, enfin, hein. Ouais, le Mac, il est à l'hôtel, il faut les ramener là-bas.
Et puis, on peut aussi faire son propre perso, et là, on peut délirer aussi.
Ouais. Ah, on crée son perso féminin, masculin, plus ou moins habillé. Ouais, c'est aussi sympathique. D'ailleurs, c'est un jeu où Nelly, tu nous avais débloqué les cinématiques.
Ah, vous m'avez tellement,
filmées.
Ils m'ont tellement supplié pour aller chercher les codes. Je suis allé chercher les codes.
On t'a pas supplié, t'as fait ça de toi-même.
Ouais, hein. C'est
ça. C'est parce qu'il avait pas d'anecdote perso aujourd'hui, il fallait quand même qu'il la place celle-là.
Et alors, du coup, on voit des scènes filmées avec des femmes
des
à la.
Petits striptease, des
ou à la poitrine
danses,
généreuse
qui font
des
pole dance avec un BMX en fond.
Voilà, un BMX
oui,
en fond.
Oui, enfin, très, très en fond le BMX, hein, parce que tu le vois pas toujours, je crois. C'est vraiment excuse d'eux. Hein.
Ouais, mais en fait, c'est ça la carotte du jeu, quoi. Quand on a BMXXX, c'est que tu joues pour débloquer les vidéos, quoi.
Ouais. Alors, pour revenir à l'Amstrad, parce que c'est mon petit chouchou, il y avait Matari. Donc, une Matari, c'est une espionne allemande. Et dans le jeu, donc, on incarne cette personne. Et
tu parles d'Amstrad et tu parles d'Atari, je comprends pas, là.
Ah. Si Lionel se met à faire des blagues à la Ellie, on est mal, là.
Donc, sympathique aussi, petit jeu. Dans Barbarian 2, déjà sur Amstrad, il y avait beaucoup de trucs coquins quand même. Il y avait, par exemple, on pouvait prendre le barbare ou la femme. Et la femme, elle avait aussi une petite tenue en string, bon, très pixelisée, bien entendu.
Ne me dis pas que tu ne parles même pas de Sims.
Si, j'en viens.
Ah, Sims, c'est son homologue aussi, Single, qui est un peu plus encore.
Où tu peux voir des gens tout nus et faire des trucs intéressants. Dans Playboy The Mansion, un peu pareil. C'est vraiment un genre Sims. Il est sur Play 2, sur Xbox 3, Xbox normal. Que j'ai acheté, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a Playboy quand même sur la couverture, c'est pas rien, il est pas trop cher, je le prends. Couverture toute rose. Et là, on peut organiser des petites soirées, inviter du monde, avoir des actrices de porn et tout ça. Et elles viennent plus ou moins habillées, tu peux faire rencontrer les gens, alors ils s'entendent bien, et tu sujets de conversation, il faut les mettre ensemble. Et après, le but, c'est de faire un magazine, donc Playboy, avec en couverture une photo, voilà. Donc, j'ai pas fini le jeu, mais il y a des petits intérêts sympas.
Des petits intérêts.
Alors, tout le monde connaît Mario. Vous avez remarqué que quand finit un Mario, qu'est-ce qui se passe? On sauve la princesse. Ça, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'elle lui fait pour le remercier?
Une bise.
Un gâteau.
Un gâteau, c'est vrai.
Sur 64, un gâteau. Elle lui fait généralement un bisou sur le nez, il devient tout rouge. Voilà.
Et ça, c'est sexy?
Ben oui, c'est la récompense.
D'accord.
Okay. Ça m'étonne que dans tes jeux plus ou moins
ça
t'es pas à parler de la série Lizer Sweet Larry.
Ah oui, les jeux de drague.
Ouais, ouais, où justement, ben, t'es un peu un loser, tu devais tout draguer, quoi.
Ouais, ouais, il a pas un physique de gagnant et t'es sympathique sur PC. Beach Spiker Volleyball. Alors là, c'est un jeu de volleyball tout à fait correct. Il n'y a que des filles.
Oui, c'est sexy.
C'est relativement sexy parce que tu peux débloquer des.
C'est du volley, quoi.
Ouais,
c'est du volley féminin, quand même.
Il n'y a que des femmes. Et elles sont toutes bien foutues. J'ai regardé
toutes la même corpulence en fait, c'est ça le truc.
Tu peux pas changer la corpulence, ça c'est dommage.
Ouais, mais elles sont toutes identiques.
On a compris, vous interprétez bien que par corpulence, Ellie parle de la taille des seins. Hein.
Ouais. Il y a les hanches, les jambes,
les hanches, les fesses, les cuisses.
Ouais, bien sûr.
Tout.
Ouais, on va pas revenir sur Sexy Parody, je pense qu'on l'a bien décortiqué, il y a pas mal de scènes.
Il y a quelques petits passages, mais voilà, sans plus.
Voilà. Et qu'est-ce que vous connaissez en jeu hentai?
Bah rien, nous on est.
Moi j'en ai trois à la maison, mais je connais pas leur nom.
Dans le jeu hentai, ce qui revient souvent, c'est que les personnages sont pas listes, mais ils ont des spécificités. Genre, t'as l'infirmière, l'écolière qui reviennent, la forte poitrine, les lunettes, les petites culottes, les japonais aiment bien.
Tous les fantasmes japonais, quoi, en gros.
Voilà, voilà.
Les fantasmes de l'otaku.
D'ailleurs... C'est génial, on va finir l'émission sur du hentai. C'est t'as voilà, encore quelque chose à ajouter?
Une petite dernière chose, encore dans Double Dragon sur arcade, on remarquera qu'au début du jeu, c'était l'époque Magdona avec petite culotte, il y a les méchants qui viennent capturer une fille, il lui donne un gros coup de poing dans le ventre, il la porte sur l'épaule et on voit sa culotte blanche.
Ah, on voit sa culotte blanche.
Voilà.
Et elle crie, please help me, parce que c'est la chanson avec laquelle on va se quitter aujourd'hui.
Exactement, et j'aimerais quand même dire que cette chanson-là, eh ben, ça reprend le El Bimbo de Claude Ciari et la symphonie numéro 40 de Mozart.
D'accord, oui, encore du classique.
Ah bah oui,
et puis, juste quelques secondes encore pour moi, pour vous rappeler que vous pouvez retrouver notre cher Arthur avec son caleçon à fleurs, non, à cœur, puisque sur notre podcast du forum Try Again, c'est le podcast qu'on mettra aujourd'hui, Ghost and Goblins. Voilà, plein de bisous.
À la semaine prochaine, ciao, ciao.
Salut à tous.
M57 Radio.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Game over.